Bonjour à vous, chères auditrices. Bienvenue dans Grenade, l'émission de Poésie en chantier. Grenade est une île des Caraïbes. Grenade est un fruit. Grenade est une ville. Le lendemain de l'annonce du 49-3, il était prévu que je parte en voyage en famille en Andalousie, à Grenade. Quelques jours plus tard aurait lieu un rassemblement d'opposition aux mégabassines à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Départ de Marvejols à 7h, à 5 dans la voiture chargée à bloc. Très vite, nous n'avons plus capté la radio française et avec elle les annonces de mobilisation. À travers la vitre de la voiture, je vois des vergers en fleurs, des houles de filets et de bâches, une terre rocheuse et sèche, des arbres café d'agrumes, des fumées pastels aux couleurs de soleil couchant. Nous nous arrêtons à Torrent pour la nuit, aux abords de Valence. Nous sommes le 19 mars 2023. Des pétards dans tous les sens nous surprennent quand nous cherchons une place pour nous garer. Alors je descends, m'approche d'un groupe de personnes qui promènent leurs chiens et leur demande. C'est un jour spécial aujourd'hui, c'est la fête? Oui, c'est la Fayas, las Fayas. C'est une fois par an. À 22h30, ça va commencer à péter très fort et bientôt il y aura de plus en plus de monde. C'est quoi l'histoire de cette fête? Dans la tradition, les gens vidaient leurs maisons de choses dont ils ne voulaient plus et les brûlaient ensemble en faisant de grands feux au coin des rues. Vous connaissez un endroit simple et bon où l'on pourrait manger? Un monsieur nous a amenés jusqu'au restaurant. Il nous parlait des jours de fête qui s'achevaient aujourd'hui et nous disait de faire attention à nous si nous craignions le bruit. Lui passait sans même sursauter aux détonations. Je me suis demandé s'il était sourd, et si tous les autres habitants, habitantes l'étaient aussi. Les odeurs et les sons me mettaient en état de vigilance, un mélange de manif en France et de carnaval sauvage pendant le confinement. Il nous faisait passer par les plus beaux Fayas, heureux de nous faire découvrir la beauté de ces constructions. Nous marchions sur le qui-vive, les yeux abasourdis, par tant de stimulation. Des sculptures immenses en mousse expansive et en bois trônaient aux angles des rues. Des figures de dessins animés, des écriteaux, des scènes de critiques sociales et politiques. Dans chaque quartier, les gens mangeaient autour d'elles, se prenaient en photo devant. De très jeunes enfants enguirlandaient les passants et les effigies de pétards mitraillettes. Quelques jours plus tard en France. Grenade est un symbole. Grenade est une arme. Grenade est une couleur qui coule dans les bassines. Tribune, lutte. Par Reporter, le média de l'écologie. Titre. Médecin à Sainte-Soline, je témoigne de la répression. Témoignage d'Agathe, médecin urgentiste, présente à la manifestation, 27 mars 2023, 15h57, durée de lecture de l'article, 12 minutes. La marche de printemps. Départ du camp vers 11h. Trois cortèges marchent à travers champs. Le premier cortège nous annonce qu'il n'y a aucun barrage des forces de l'ordre sur le parcours. Ils gardent la bassine. Un vulgaire trou recouvert de béton. Ils la gardent comme une forteresse. Ils auraient même creusé une tranchée de 8 mètres de profondeur et un talus de plusieurs mètres de hauteur sur tout le tour de la bassine pour la rendre inaccessible. Les douves du château fort. Le cortège au sein duquel je me trouve est joyeux. Les manifestants marchent dans la boue, un champ de colza, première fleur du printemps. Arrivé à proximité de la méga-bassine. Les cortèges se retrouvent, ils fusionnent, une marée humaine. La victoire d'être si nombreux, 20 000, 25 000, 30 000 personnes, impossible d'estimer. On aperçoit les forces de l'ordre soigneusement disposées autour du bassin, enceintes de camions de garde mobiles, plusieurs blindés. Une colonne de quad avec un binôme de garde mobile dessus. Certains auraient vu la cavalerie. Personne n'est inquiet à cet instant. Que peuvent-ils faire contre cette foule hétéroclite et déterminée? Un instant, je me demande pourquoi les forces de l'ordre sont là. Ils ont creusé une tranchée de 8 mètres de profondeur et un énorme talus. La bassine nous est inaccessible. Je me demande pourquoi la présence de toute cette artillerie est nécessaire. Qu'aurions-nous fait en leur absence? J'en discute avec une amie, on se dit qu'ils font de la lutte contre les méga-bassines un symbole de l'autorité de l'État. Premier gaz. Je suis venue manifester avec une bande d'amis, je marche avec une copine. Dans mon sac à dos, des compresses, du désinfectant, des antalgiques, des bandes, des pommades anti-inflammatoires. Quelques kits de suture si nécessaire pour l'après. Nos expériences de manifestation des premières années nous ont appris qu'il fallait s'équiper en matériel de secourisme. Je ne me suis pas identifiée comme médic officiel, mais il me semble évident d'avoir un minimum de matériel, au moins pour les copaines. Les cortèges se rejoignent à proximité de la bassine. Le cortège à notre droite est déjà noyé par les gaz alors que nous sommes encore à plusieurs centaines de mètres. Il remonte vers nous, alors que nous continuons à avancer. Heureux de se retrouver après ces nombreux kilomètres parcourus à travers champs. Les manifestants s'approchent, des gardes mobiles avec leurs banderoles. On avance ensemble, nous apercevons les visages familiers de quelques vieilles amitiés, à peine le temps de se retourner. Il pleut des grenades lacrymogènes et d'autres assourdissantes et désencerclantes. Nous reculons. Je vois une femme faire demi-tour et repartir en arrière, énorme détonation entre les jambes. Elle boite. Nous reculons pour l'accompagner, la soutenir. Ça commence fort. On constate les blessures. Un bel hématome sur la cuisse, un peu de gel anti-inflammatoire, 2 gorgées d'eau. On se retourne, les manifestants crient, médic de tous les côtés. On vient à peine d'arriver. Derrière nous, un deuxième blessé est transporté par des manifestants. C'est un homme jeune avec une plaie délabrante de la main. Grenade de désencerclement. Je nettoie, une compresse, une bande, un antalgique. Tu devras refaire le point sur la base médic arrière, être sûr qu'il n'y ait pas de corps étranger. D'autres médics s'affairent, on continue. On entend dire que... quelqu'un serait inconscient au sol à proximité d'une banderole devant. On cherche cette personne. Impossible de la trouver. Un ami nous arrête. Il s'est pris un flashball à l'arrière de la tête. On s'assoit pour l'examiner derrière une haie. On remonte sur un chemin en terre. Le chemin des blessés. Le niveau d'intensité a été maximal d'emblée. Pas de demi-mesure. Tous ces blessés qui reculent, allongés dans un champ, assis dans un fossé. La haine monte contre les forces de l'ordre. Que font-ils? Que défendent-ils? Quel mètre cube de béton valent-ils? Tous ces corps mutilés? Quelqu'un nous attrape par le bras. Un infirmier avec lequel j'ai discuté un peu plus tôt dans la journée. Il nous emmène à proximité d'un homme allongé à côté d'un fossé. Fracture ouverte de fémur, me dit-il. Un pansement est déjà installé. Je ne vois pas la plaie. Je vois un hématome de cuisse volumineux. Il n'y a pas d'extériorisation de sang. Je sens son pouls. Il est conscient. La première chose à faire, le mettre en sécurité. Un antalgique. À 8 personnes, on le déplace plus loin. Quelqu'un prend des constantes. La fréquence cardiaque est normale, je suis rassurée. Il n'est pas en train de se vider de son sang. Pour une fracture ouverte de fémur, le risque hémorragique est majeur. Je demande à ce que quelqu'un appelle le SAMU pour une évacuation. Derrière nous, un deuxième blessé est transporté par des manifestants. Une plaie délabrante de la fesse gauche. La plaie n'est pas hémorragique. Elle est douloureuse. Il ne peut pas marcher. Selon les organisateurs, 200 manifestants ont été blessés, dont 40 grièvement. On aperçoit une nouvelle charge de la police. Des quads? Des lacrymos? Je ne sais pas. Je n'ai pas le temps de lever le nez des blessés. Il va falloir qu'on recule de nouveau pour mettre les blessés en sécurité. On fait un portage sur le chemin en terre pour s'éloigner vraiment définitivement des zones d'agression. On arrive à un croisement. Je demande à ce que les constantes des blessés soient prises de nouveau pour s'assurer de leur stabilité. Je demande à ce qu'on rappelle le SAMU pour qu'il nous envoie des secours. Je vois que sur le chemin, d'autres blessés continuent d'affluer. Je refais le point sur la suspicion de fracture ouverte au fémur. Je déballe la plaie. La plaie est profonde. Il y a quelque chose de dur et de blanc qui ressort de son sein. Ce n'est pas de l'os. C'est un corps étranger en plastique blanc. Une part cylindrique, une part plate. Je laisse le corps étranger en place. Il doit être retiré dans un bloc opératoire au cas où il existe une plaie vasculaire sous-jacente. Je rectifie le diagnostic à la régulation du SAMU. À ce croisement de route où se retrouvent de nombreux blessés, des élus et des observateurs de la Ligue des droits de l'homme sont présents. Mon petit matériel ne va pas suffire. Quelle impuissance! Un homme est installé par des manifestants juste à ma gauche. Il a le visage déformé. Il s'est pris une grenade dans le visage. Je l'examine. Il a une plaie de paupière hémorragique. L'œdème de la paupière ne me permet pas d'examiner l'œil, sa vision, sa motricité. Il a une très probable fracture au maxillaire gauche. Je ne peux rien dire pour son œil. Des personnes viennent me voir pour me dire que les ambulances sont bloquées par les gardes mobiles en amont. Je commence à m'énerver. Je transmets. Nous avons appelé le SAMU, nous avons des blessés graves. Ils doivent laisser passer les ambulances. Nos appels sont enregistrés sur les bandes de la régulation du SAMU. S'ils entravent le passage des ambulances, ils seront pleinement responsables du retard des soins. On ne se laissera pas faire, y compris sur plan juridique. Mettez-leur la pression, c'est pas possible autrement. D'autres blessés arrivent entre-temps. Ils ont l'air stables, je n'ai pas le temps de les voir. Certaines personnes s'occupent d'eux, des complicités de bord de route. L'urgence absolue. Quelqu'un vient me voir pour me demander d'intervenir plus en amont sur le chemin. Mon ami reste avec les blessés. Je remonte la zone où un homme est au sol. Du monde autour de lui. Je m'approche de sa tête. Un médic réalise une compression du cuir chevelu. Des gens essayent de le faire parler. Du sang coule sur le chemin. Il est en position latérale de sécurité. Je me présente auprès des autres personnes qui prennent soin de lui. Je suis médecin urgentiste. Est-ce qu'il a déjà été évalué par un médecin? Est-ce que quelqu'un a déjà appelé le SAMU? Le SAMU est prévenu. Pour l'instant, aucun moyen ne semble engagé. Je l'évalue rapidement. L'histoire rapporte un tir tendu de grenade au niveau temporal droit, juste en arrière de l'oreille. Il se serait effondré. Extrait par des manifestants. Au début, il aurait été agité. Là, il est en position latérale de sécurité. Il est trop calme. Le coma est de plus en plus profond. Je fais un bilan de débrouillage. Une plaie du scalp de plusieurs centimètres en arrière de l'oreille, la plaie hémorragique. Un traumatisme crânien grave avec un score de Glasgow initial à 9. Une otorragie qui fait suspecter une fracture du rocher. pupille en myosis aréactive, vomissement de sang avec inhalation. Les premières constantes qu'on me transmet sont très inquiétantes. La fréquence cardiaque serait à 160, la tension artérielle systolique à 85, le choc index à presque 2. Je demande à ce qu'on rappelle la régulation du 15 et qu'on me les passe au téléphone. Mon petit matériel ne va pas suffire. Quelle impuissance. Je prends la régulation du 15 au téléphone. Je demande à parler au médecin. Je me présente en tant que médecin urgentiste. Je demande SMUR, service d'aide médicale urgente. D'emblée, pour un patient traumatisé crânien grave avec une plaie du scalp hémorragique et des constantes faisant redouter un choc hémorragique. Le médecin me répond que la zone ne semble pas sécurisée et qu'il est impossible pour eux d'intervenir au milieu des affrontements. Le médecin me répond que la zone ne semble pas sécurisée et qu'il est impossible pour eux d'intervenir au milieu des affrontements. J'explique que nous sommes à distance des zones d'affrontement, qu'il y a des champs autour où il est possible de faire atterrir un hélicoptère. Il me dit qu'un point de rassemblement des victimes, PRV, est en cours d'organisation, qu'il va nous envoyer des pompiers pour extraire les victimes. J'insiste sur le fait que cet homme a besoin d'un SMUR d'emblée, qu'il s'agit d'une urgence vitale immédiate et qu'il n'est pas en état d'être transporté vers un PRV. L'appel téléphonique prend fin, je n'ai pas l'impression que ma demande ait été entendue. Un traumatisme crânien grave peut aboutir à la mort cérébrale ou à la présence de séquelles extrêmement lourdes. Je retourne auprès de la victime. Je la réévalue. Son score de Glasgow est tombé à 7. Le coma est de plus en plus profond. Une équipe de médecins infirmiers, des gardes mobiles arrivent. Je suis en colère. Ils viennent apporter les bons soins à ceux qu'ils ont presque tués. Je ravale ma colère. Il faut penser à cet homme, à ce qu'il y a de mieux pour lui. Je fais une transmission médicale. Je propose que le médecin rappelle la régulation pour appuyer ma demande de SMUR dans le cadre d'une urgence vitale immédiate. En attendant, j'aide l'infirmier à poser une perfusion. Traitement de l'hypertension intracrânienne. Traitement pour l'hémorragie. Le médecin des gardes mobiles me demande si j'ai de l'oxygène. Je ris nerveusement. Non, moi j'ai des compresses et de la biceptine. J'étais là pour manifester initialement. Leur matériel est limité. Ils n'ont pas de quoi faire des soins de réanimation. Je ressens leur stress. Nous sommes dépendants du SMUR. Des pompiers en pick-up arrivent. Ils nous demandent pourquoi le SMUR et les VSAV, véhicules de secours et d'assistance aux victimes, ne sont pas là. Je craque et je leur hurle dessus. Je dis que les ambulances sont bloquées par les GM, gardes mobiles, en amont. Combien de temps s'est écoulé ? Depuis combien de temps était-il au sol avant mon arrivée ? Comment peuvent-ils assumer un tel niveau de violence pour quelques mètres cubes de béton ? Je pense à Rémi Fraisse. Le SMUR arrive, j'aide à son installation sur le brancard du SAMU. Le médecin du SMUR prépare de quoi l'intuber dans le camion. Je quitte les lieux pour rejoindre les autres blessés. Je pense à cet homme, à ses amis, aux miens. Je me demande où ils sont. Y en a-t-il d'autres comme lui ? Je pense à tous ceux qui ont été blessés ces dernières années par les armes de la police, à la ZAD, au Chefren, au Testé, pendant la loi travail, les gilets jaunes, à ceux qui ont perdu des doigts, une main, un œil, ceux qui ont perdu la vie, à lui.
En silencio fuimos a caer junto al gran monte, aquel que nos dio el amor. No puedo negar que me hizo daño, que a tu corazón huye de
Les orangers bordent les rues et emplissent les jardins. Personne n'en mange. Elles ont la peau épaisse, elles sont belles. Les poèmes qui suivent n'ont pas été écrits en rapport aux méga-bassines, mais il se peut que des résonances se fassent. J'ai ouvert la bouche. J'ai voulu dire les vrais mots. Tu as proposé que je les écrive. De mon index trempé d'odeur de nuit, j'écris l'orthographe du plaisir dans tes bras. Souvent, tu dois m'entendre presser les doigts, les paumes, pour signaler à ta peau son importance. Déjà, l'amour, la mise en poésie que je fais m'émeut. Des relents de désert me sèchent les yeux, me vexent la langue. Au palais, tapissé de nos goûts. Je viens du désert, je t'ai dit. J'en garde cette façon de rationner la joie. Combien de pommes tomberont de ta tête? Combien en croquerai-je? Combien s'éclateront au sol? Tes cheveux pleurent sur ma peau, nos arbres préférés. Je deviens la terre de tes cheveux mes fleurs. Tes branches me couvrent. Une cavité se forme. Le soleil y entre et fend nos yeux. J'accroche aux yeux de mes tétons des broches d'amour. Je broche à tes tétons des yeux d'amour. J'amour à tes yeux les tétons de mes broches. Je tétons à tes broches les yeux de mes amours. Je deviens terre du sol quand au-dessus de moi tu t'avances et mes fleurs. Les branches d'un très grand sol pleureur. Les sols s'embrassent et se retournent et s'embrassent et se pleurent et se solent l'un sur l'autre, sur leur terre. Tu as des coquillages vivants plein les mains. Quand on se dit au revoir sur le bord de la route, au bord de la grande flaque, près du bois, le long de la clôture, l'accent circonflexe est un coquillage. Que tu me tends. J'y lèche l'eau. Tes questions sont des oranges. Tu les poses la nuit, cachées derrière ton téléphone. Tes silences ont du goût. Tu laisses passer les camions de l'autoroute que je regarde. Tu as des oranges et des pommes plein la tête. Ta main dans la mienne, comme un coquillage qui s'ouvre et se recroqueville. Longtemps. Ouvrir son cœur. Comme les homards ouvrent leurs pinces, comme les anémones ont doigts, comme les gobies vigoureux participent aux vagues, ouvrir son cœur. Je me régale des douceurs qui te jonchent. Je mords et je te suce. Je me régale de faire glisser dans l'antre les grosses grenades que sont mes seins ce soir, une veille de règles. Je les trempe, tour à tour, te les donne à lécher. Je me régale de te parcourir les cuisses, d'aller jusqu'à la plante de tes pieds. Mes mains pleines de cette même vigueur appuient fort, disent le désir.
Au-dessus du pont, juste au-dessus du pont, il y a des oiseaux volant dans l'air en dessous du pont, juste en dessous du pont, il y a des poissons nageant dans la rivière. Et puis sur le pont, juste assis sur le pont, il y a Camille et il y a Jean-Pierre qui parlent d'amour et de papillons, se tenant la main sans en avoir l'air, qui parlent d'amour et de papillons. Ils sont amoureux comme d'autres avant eux. Au-dessus du pont, juste au-dessus du pont, restent les corbeaux croassant dans l'air. En dessous du pont, juste en dessous du pont, Les poissons sont morts, ils ont le ventre en l'air. Et puis sur le pont, défilant sur le pont, et marchant au pas, il y a les militaires qui pensent à leur vie, qui serait si jolie. Ils aimeraient mieux ne pas faire la guerre, qui pensent à leur vie, qui serait si jolie. Ils sont malheureux comme d'autres avant eux. Au-dessus du pont, juste au-dessus du pont, il n'y a plus rien, le ciel est un désert. En dessous du pont, juste en dessous du pont, il n'y a plus rien, même plus de rivière. À la place du pont, juste à la place du pont, il y a un trou et puis un tas de pierres. Et pas loin de là, l'enfant pleure tout bas. Il n'a pas compris, ne sait pas quoi faire. Et pas loin de là, l'enfant pense tout bas qu'un jour un autre tronc elle reconstruira.
Cette émission de poésie sera toujours teintée d'actualité, de ce qui brûle, de ce qui touche. Merci à Radio Bartas pour l'accueil et le temps, à Arthur pour la préparation. Merci à E et à N pour les extraits sonores qu'elles ont recueillis et qui elles m'ont permis d'utiliser ici. Merci au chanteur de la nuit de Grenade assis sur son banc.